Pourquoi et comment sortir du culte des richesses ? Wow, qu'est-ce que c'est ce titre que nous a trouvé Pascal ? On va lire Luc, grande lecture. Le passage qui va nous intéresser, c'est Luc en fait, chapitre 16. C'est le passage de l'économe infidèle dont vous avez certainement entendu parler, cet homme qui se fait rappeler à l'ordre par son maître. Et qui est licencié et qui trouve une astuce pour pouvoir continuer à mener son train de vie sans travail. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Mais on va lire ce qui est avant et après. Donc Luc chapitre 15, on va démarrer au verset 11. Le fils prodigue. Mais en lisant cette parabole du fils prodigue, on va se projeter un petit peu vers ce que dit Jésus. Ensuite, Jésus dit aussi à ses disciples. Donc ça, c'est chapitre 16. Et puis, on va aller jusqu'à la fin du chapitre 16 pour voir ce que Jésus a dit après notre passage de ce matin. Donc, je vais essayer de faire une belle lecture pour vous. Luc, chapitre 15, le fils perdu. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, l'héritage de son père donc, il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoyait dans les champs garder les pourceaux, les cochons, les porcs. Ils auraient bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Il aurait bien voulu, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et comme il était encore loin, et donc il se leva et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, il vit les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Le fils se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le papa, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ?»« Travailler la terre ? Je ne le peux pas. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» 100 mesures d'huile, répondit-il, et lui dit, prends ton billet, assieds-toi et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il, et lui dit, prends ton billet, écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, en homme sage. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, la richesse. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de Jésus. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi, les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi ne vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Et Jésus poursuit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était là couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher les ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, à côté d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux et tandis qu'il était aux proies, aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, tout contre lui. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Il dit non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Jusqu'ici. Alors le texte sur lequel on va se focaliser, c'est la parabole de l'économe infidèle. Mais juste avant, on a le fils prodigue et l'enseignement central du fils prodigue, hein, vous le savez, c'est l'accueil pour le pécheur repentant quand il revient à Dieu. Il est accueilli comme un fils. Parce qu'il a de la valeur, parce qu'il est aimé, le pécheur repentant est accueilli s'il retourne vers Dieu. Mais on a ici en toile de fond, dans cette parabole du fils prodigue, les richesses qui sont là. Le fils cadet, il convoite l'émancipation que va lui permettre d'avoir les richesses de son père. Si j'ai l'argent de mon père, je pourrais partir, mener la belle vie. Et c'est effectivement ce qu'il va faire. Il va faire la fête dans son coin, loin de son père, qui pour lui va être en quelque sorte comme mort. Il a pris l'héritage, il s'occupe plus de son père. Le fils cadet, ça c'est le fils cadet. Le fils aîné, lui aussi il convoite l'argent que pourrait lui donner l'émancipation que pourrait lui donner l'argent de son père. Avoir de quoi faire la fête avec ses amis à lui, d'avoir un chevreau, il dit. Lui aussi, dans son coin, faire la fête avec ses amis. En fait, aucun des deux fils ne connaît vraiment le père. Et toute l'humanité est comprise dans ces deux fils qui ne connaissent pas leur père et qui vivent dans la convoitise. Quelle est la vraie richesse qu'a le père? C'est être réunis ensemble. La richesse du père, ce qui focalise toute son attention, c'est avoir sa famille réunie autour de lui. C'est communier dans l'amour. Et les richesses qu'il a sont faites pour célébrer le bonheur d'être ensemble. Et il n'hésite pas à tuer le veau gras, il est là pour ça, pour célébrer la joie de se retrouver. Et c'est à cette richesse-là, finalement, qu'aspirent tous les hommes de tous les temps. Vous comme moi, ce à quoi on aspire, c'est une vraie communion avec tout ce qui nous entoure. Vivre des moments ensemble, uniques. C'est ça, le bonheur. C'est ça, réussir sa vie. Alors, où est le problème? Et donc, nous avons maintenant la parabole de l'économe infidèle. Vous avez remarqué, dans cette parabole, on a un mauvais gérant. D'une part, il a mauvaise réputation. Il dissipe les biens de son père. Il est comme le fils prodigue, qui est parti loin, il les vend littéralement. Vous imaginez quelqu'un qui jette les billets en l'air et puis le vent les prend. C'est exactement l'image ici qui est donnée de ce serviteur vis-à-vis des biens de son maître. Il les jette au vent. Vous avez remarqué qu'il ne sait même pas combien lui doivent ses créanciers. Il ne sait pas du tout. Il demande, toi combien tu me dois, toi combien tu me dois. Il ne sait pas du tout où il en est dans les comptes. Et il est malhonnête en s'achetant une situation avec l'argent de son maître. Vraiment un très mauvais gérant. Et puis il y a un homme riche qui finalement est peu regardant à ce qu'il possède. Il ne surveille pas la gestion de son employé. C'est les bruits, c'est par les bruits et les candidatons qu'il apprend qu'il est malhonnête, qu'il gaspille son argent. Et puis, il ne se fâche même pas si son gérant le vole. La richesse n'est pas la priorité des personnages de la parabole de Jésus. La seule inquiétude du gérant, c'est d'avoir une maison et d'être accueilli quelque part. Et pour l'homme riche, perdre ses biens, ça l'affecte pas plus que ça. Il préfère admirer l'astuce de son ancien gérant. Et finalement, le gérant, les créanciers, l'homme riche, ils fonctionnent très bien dans ce milieu de l'incompétence, de la fraude et du gaspillage. Passe à la maison, on va boire l'apéro, et puis voilà. Qu'est-ce qui est important plus que ça? Qu'est-ce que Jésus veut enseigner? Le verset 8b. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Une humanité qu'il sépare en deux. D'un côté, il y a les enfants du siècle et de l'autre, les enfants de lumière. Il y a ceux qui s'inquiètent et vivent du monde et il y a les disciples de Jésus qui cherchent le royaume des cieux. Il y a d'un côté une communion dans la magouille, dans les dessous de table, dans l'incompétence, dans le gaspillage. Et de l'autre, il y a des enfants de lumière qui ont bien du mal à vivre à leur propre standard, ceux du royaume des cieux, alors que pour les enfants du siècle, c'est tellement facile pour eux de vivre dans leur standard. Et Jésus s'adresse donc aux disciples. Ici, hein. Verset 9. Moi, je vous dis, faites-vous des amis. Le texte est un peu différent ici. Faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'elles vous reçoivent. Des amis avec des richesses pour qu'elles vous reçoivent quand vous serez dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Les richesses convertibles en euros n'ont pas de valeur. Il parle des richesses injustes, le Seigneur. Et quand on y réfléchit bien, c'est vrai que ça semble des richesses, certes. On a, par exemple, un travail tous les mois. Mais pourquoi je touche ce salaire et pourquoi l'autre, qui est un homme comme moi, il va gagner plus ou il va gagner moins? Ça semble pas très juste. Et pourquoi le monde de l'emploi qui crée les richesses et qui crée ce qu'il faut pour que notre monde fonctionne, et merci Seigneur parce que ça fonctionne quand même, ah ben, c'est souvent un monde d'affaires qui est dur, qui est fonctionne loin de l'éthique chrétienne et qui n'a pas de relation, de connexion avec le royaume de Dieu. Alors, des fois on peut réfléchir à tout ça et être déprimé, se dire, oh, mais moi là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et Jésus appelle ça les richesses injustes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Pourquoi sommes-nous si attachés à ces richesses injustes qui finalement n'ont pas de valeur? Pourquoi est-il aussi difficile de les utiliser pour faire du bien à nos frères et à nos sœurs? Et Jésus dit, dans le monde, ils savent faire ça. Et il montre l'exemple de cet économe infidèle. Et les enfants de Dieu ont du mal à bien utiliser ces richesses qui n'ont pas de valeur, parce qu'elles sont injustes. Versets 10 et 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'êtes pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dans le royaume des cieux, un serviteur est fidèle. Alors il ne s'agit pas d'imiter notre gérant ici, qui faisait n'importe quoi, qui était incompétent et qui gaspillait l'argent. Il ne s'agit pas de le prendre comme exemple. Dans le royaume de Dieu, un serviteur est fidèle. D'ailleurs, il a été clairement renvoyé. Est-ce que nous aussi, nous voulons être renvoyés du royaume de Dieu? Certainement pas. Alors soyons compétents, professionnels, appliqués, honnêtes dans ce que notre maître nous a confié en gestion. Et il nous confie des dons différents. Peut-être quelqu'un est doué dans tel domaine, peut-être quelqu'un excelle dans les arts, dans la musique. Quelqu'un d'autre a-t-il beaucoup d'amis, est-il fort dans les relationnels, dans les relations. Soyons fidèles, même et surtout si on trouve que ces choses sont petites à nos yeux. Et une immense majorité d'entre nous qui vivons dans l'Occident, nous avons reçu des richesses injustes, des richesses de ce monde. Et pourquoi tel pays serait riche, pourquoi tel autre pays devrait-il être pauvre? Je crois qu'il faut avoir la pensée que ces richesses injustes ne sont pas à nous. Soyons honnêtes et avisés par rapport à l'utilisation que nous en faisons et qu'elles servent le royaume de Dieu, la famille de Dieu. On peut voir ça comme un test. À mon travail, dernièrement, il y avait une formation de secouriste. Et le but, c'était d'apprendre à être secouriste, connaître les gestes qui sauvent. Et là, il y avait des mannequins. Et puis, ceux qui apprenaient s'entraînaient sur les mannequins. Bon, les mannequins n'avaient aucune valeur. Mais le but, c'était que quand ils savaient faire, ils allaient pouvoir ensuite avoir entre leurs mains de vraies personnes vivantes qui avaient besoin d'aide. Ce ne seraient plus des mannequins à ce moment-là. Supposez que vous vouliez apprendre à faire des toasts au caviar. J'ai jamais fait ça. Oui, moi j'ai jamais su faire les tests au caviar, mais ce que le maître ferait, voilà. Je vais te montrer comment tu fais, et puis il lui donne des œufs de lompe, et il va s'exercer à faire des toasts avec des œufs de lompe, parce que les œufs de lompe, ça va. Ça n'a pas le prix du caviar, puis quand il est au point, voilà. Le caviar, il est à toi maintenant. Fais les toasts, mais c'est ton caviar. Ce que dit Jésus ici. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous un jour? Un jour viendra où l'héritage dans le ciel, Dieu va donner son héritage. Demain nous serons héritiers. Dieu nous donnera le caviar, il nous donnera les richesses qui sont à lui. Éphésiens 2:18. Alors c'est maintenant qu'il faut s'appliquer à la fidélité avec les richesses injustes qu'il nous a mis à notre disposition. Il faut s'exercer à cela. Jésus nous donne une astuce. Au verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Avons-nous des difficultés pour être fidèles dans les grandes choses? Peut-être, on n'y arrive pas. Commençons par les petites choses et les grandes suivront, dit Jésus ici. Verset 13, enfin, nul ne peut servir deux maîtres. C'est un verset très célèbre. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et Jésus a répété cette phrase à différentes reprises et dans différentes circonstances. Dans la parole, dans les évangiles, on le retrouve. Alors ici-bas, nous ne sommes que des serviteurs. Satan voudrait nous faire croire que Nous sommes des capitaines. Mais c'est faux, nous ne sommes pas des capitaines. C'est un peu dur à avaler. Nous ne sommes pas des maîtres. Nous sommes des serviteurs. Serviteurs de qui? Serviteurs de quoi? Deux maîtres devant nous. Soit on va servir le Seigneur qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. Soit on va servir notre ennemi qui nous a trompés. Et les richesses sont un leurre. Elles sont un leurre, on le voit. Combien ils se sont fait piéger. Le fils prodigue qui a tout dépensé, qui s'est retrouvé dans une sombre misère, seul. Seul. Et l'homme riche qui s'est retrouvé loin de sa famille, loin d'Abraham, dans un lieu de souffrance. Il faut choisir. On ne peut servir qu'un seul maître. De toute façon, on doit en servir à un maître, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas avoir un pied d'un côté, un pied de l'autre. On ne peut pas suivre deux chemins en même temps. On ne peut pas être du ciel et de la terre. À nous de faire le choix. Jésus continue son enseignement et on va faire un petit survol maintenant de ce qu'il dit après. Il balayait quelques arguments. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie, pour le faire apparaître et pour le ce qui est fait semblant dans ce monde et dans ce siècle. C'est ainsi que ça fonctionne. Il suffit de faire semblant, de cacher les choses, de montrer que tout va bien. Et voilà, ça va. Ça suffit. Et les pharisiens étaient fortiches là-dedans. Mais Jésus leur rappelle qu'il faut être des disciples authentique, fidèlement authentique. Il ne s'agit pas de faire semblant comme dans le monde on fait semblant et cela passe. Non, il n'y a aucune place pour l'hypocrisie dans le royaume de Dieu. Le Messie est venu, mais la loi de Moïse garde toute sa vigueur. La loi et les prophètes ont subsisté, mais il ne tombera pas un seul trait de lettre de la loi. La loi est toujours entre nous et l'âge d'or de l'humanité. Elle est entre nous deux. Elle nous sépare de l'âge d'or de l'humanité. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. On comprend bien parfaitement ces choses. Et elles font écho à notre verset 13. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut être adultère. La loi de Dieu est catégorique. Il n'y a aucun interstice. Il n'y aura aucune infidélité dans le royaume de Dieu. Et la parabole de l'homme riche et de Lazare est un beau contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. L'homme riche, c'est à la fois le fils cadet et le fils aîné. Il est à la fois celui qui est resté à la maison et celui qui dilapide la richesse. Il est aussi celui qui est seul dans son coin à jouir des richesses de ce monde, des richesses injustes. C'est lui. Les deux fils à la fois. Et Lazare est celui qui voudrait bien des miettes qui tombent de la table du riche, comme le fils prodigue aurait bien voulu des carouges que l'on donnait au pourceau, qui se goinfrait devant ses yeux. Le culte des richesses injustes de l'homme riche l'a empêché de communier avec son frère Lazare. Il a passé sa vie à manger et boire tout seul. Lazare, quant à lui, a reçu la vraie richesse. Il a reçu la vraie richesse. Il a reçu la communion d'être avec Abraham, son père. Et pourtant, tous les deux étaient frères. Tous les deux étaient frères. Des Israélites, des descendants d'Abraham. Alors qu'allez-vous faire maintenant? Je ne sais pas ce que vous allez faire. Je peux vous dire ce que je vais faire moi. Je vais m'appliquer à voir les richesses de ce monde telles que Jésus les voit. Je vais être fidèle dans les richesses injustes qui passent entre mes mains pour en faire un bon usage pour le royaume de Dieu. Je vais garder Mammon à distance de mon cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur, a dit Jésus. En Matthieu chapitre 6, verset 24. Je vais cultiver les richesses véritables, les vraies, pas les fausses. Celles qui ont de la valeur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage de Dieu qui est réservé aux saints, dont parle l'apôtre Paul à Éphésiens 2, 18. On voudrait bien savoir, mais quel est cet héritage que Dieu promet? Si on place notre texte dans son contexte, avant et après, cette richesse qui est réservée dans le ciel, selon les paraboles que Jésus a utilisées, c'est la communion avec Dieu et la communion avec les frères et sœurs. Et donc, dans l'attente de ce merveilleux repas de communion qu'il y aura dans le ciel, ce merveilleux moment où on sera bien, tous ensemble, autour du Seigneur, en communion les uns avec les autres. En attendant ce moment-là, ce que je peux faire, c'est soigner, favoriser la communion dans ma famille, la communion avec mes frères et sœurs. Vous savez, notre monde recherche le vivre ensemble. C'est le grand bien précieux que les autorités voient, il manque dans notre société française, le vivre ensemble. Tout est séparé, cloisonné, les gens ne se comprennent plus, ne se communiquent pas, n'ont pas de compassion, tirent la couverture à eux. Il manque le vivre ensemble. Dieu voit autre chose. Propose quelque chose de plus grand que le vivre ensemble. C'est la communion ensemble. Je vais être fidèle dans les petites choses également. Le verset 10 est merveilleux. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Quelle merveilleuse promesse nous avons là. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. Infidèle dans les petites choses, infidèle dans les grandes. Luttons-nous avec la fidélité dans un domaine ou l'autre de notre vie? Cela peut concerner peut-être d'autres domaines de la sanctification que la gestion des richesses injustes. Comment dire à cette grande montagne, ôte-toi de là et va dans la mer? C'est le passage suivant, encore au chapitre 17 de Luc. Et là, Jésus dit, une petite foi. Si vous aviez la foi petite, comme une petite graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, éloigne-toi de là, et elle partira. La petite foi est suffisante. C'était un message qu'on a reçu d'Étienne Lernedeau au dernier congrès de CAEF. Il a développé ce sujet-là. Fidèle dans les petites choses qui sont à ma portée, et les grandes choses suivront le même chemin. Une seule pierre méprisable aux yeux de l'homme a bouleversé l'humanité. La pierre qui a frappé la grande statue dans la vision de l'Emmanuel Kansar, tous ces empires humains empilés les uns sur les autres, une seule pierre a frappé cette grande statue et la statue s'est trouvée pulvérisée. Une petite chose peut vous bouleverser les grandes. Je veux être fidèle dans les petites choses. Alors que le Saint-Esprit nous guide, ça semble rien d'être fidèle quand on fait sa déclaration d'impôt. Mais cela peut avoir un impact et une répercussion sur toute notre vie spirituelle. Des victoires auxquelles qu'on ne s'attendait pas à mener. Voilà. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci parce que les paroles du Seigneur Jésus sont au-dessus de tout. Elles sont incomparables, d'une grande richesse à notre disposition, dans notre Bible, que nous ayons soin des paroles de Jésus, de son enseignement en tant que disciple, de nous en approprier, de les chérir, parce qu'elles ont la promesse de la vie éternelle. Cette vie merveilleuse auquel tous les hommes soupirent, la vie de la joie, de la réconciliation, de la communion auprès de toi. Le chemin n'est pas celui de fils prodigue qui était parti loin de toi. Le chemin n'est pas celui du fils aîné qui ne te connaissait pas et lui aussi pensait à lui. Merci Seigneur pour ce que tu as préparé dans le ciel pour ceux que tu aimes. Merci de nous montrer la futilité des richesses injustes de ce monde et nous révéler les merveilleuses richesses que tu réserves dans le ciel. Bénis-nous Seigneur, bénis notre famille, bénis nos relations, bénis nos petites fidélité de chaque jour. Elles sont précieuses à tes yeux. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Amen.